création, découverte, etc. Radio Campus, Angers.
Radio Campus Angers, bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure des infos. Inauguration de QG de campagne ce week-end à Angers, raid meurtrier en Syrie, Michelle Bachelet, nouvelle présidente chilienne, les députés ukrainiens réclament un remaniement, le suicide assisté approuvé par la conférence de citoyens sur la fin de vie, viande de cheval le retour et le pape trouve que les marxistes sont des gens bien. Quelques centaines d'Angevins se sont réunis autour de la dépouille de l'arbre de la laïcité hier. L'arbre replanté la semaine dernière avait été décapité sur le champ. Hier donc, feuille de chêne à la boutonnière, des défenseurs de la laïcité ont replanté des graines autour de la souche. Pour l'instant, aucune date de replantation n'a été fixée par la mairie. Pas que ça à faire de jouer les jardiniers, Frédéric Beatz. Il a quand même une campagne à tenir. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait samedi dernier en ouvrant un deuxième QG de campagne. Après Belle-Bay la semaine passée, voici la Roseraie, décentralisée à dans les quartiers. Voilà le leitmotiv du maire et candidat. Proche du peuple, dernier QG à inaugurer en janvier. Il faut en garder pour plus tard. Ce sera, devinez où, à mon plaisir, bien sûr. Laurent Gérault a fait plus sobre, plus au centre. Le candidat UDI a ouvert son local de campagne rue des Lys, à quelques centaines de mètres de celui de son ancien collègue Christophe Béchu. Mais pas de colloque cette fois-ci. Et on referme le chapitre municipal avec quatre nouveaux noms de colistiers pour Jean-Luc Rotureau. Un peu comme un calendrier de l'Avent des municipales, le candidat d'Hivercauche a annoncé qu'il livrerait quatre noms par semaine. Les voilà donc pour cette fois-ci. Rachida Ouattara, conseillère municipale et directrice de l'association Aptira. Claudéas, entrepreneur consultant. Sophie Rabin, enseignante. Et Jacques Anjard, ancien salarié de Thomson Technicolor. Plus à droite aujourd'hui, pas d'annonce transcendante. Hier, l'armée de l'air de Bachar al-Assad a mené un raid aérien contre trois quartiers rebelles d'Alep, en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les bombardements avec des barils d'explosifs ont tué 76 personnes, dont 28 enfants. 28 enfants, soit l'équivalent d'une classe de primaire décimée. Depuis le début du conflit, en mars 2011, 26 000 personnes ont été tuées en Syrie, soit la ville d'Alençon en Normandie. 62,1% des suffrages, c'est ce qui s'appelle un plébiscite. Michelle Bachelet est la nouvelle présidente chilienne. Enfin nouvelle, elle avait déjà dirigé le pays de 2006 à 2012. Michelle Bachelet a promis de réaliser 50 réformes pendant les 100 premiers jours de son mandat, parmi lesquelles une révision de la Constitution et une réforme fiscale. Il commence à douter sérieusement. Après trois semaines de manifestations, les députés du parti au pouvoir en Ukraine ont demandé aujourd'hui au Premier ministre de procéder à un remaniement majeur du gouvernement. Nous avons demandé à M. Azarov de remanier à 90% le gouvernement, a ainsi déclaré une députée. Mais les députés n'ont pas demandé la démission du Premier ministre. Ça sent mauvais pour Yanukovych et ses petits camarades. Pas d'euthanasie, non, mais la conférence de citoyens sur la fin de vie a préconisé aujourd'hui la législation du suicide médicalement assisté, avec des nuances. La possibilité de se suicider par assistante médicale comme l'aide au suicide constitue à nos yeux un droit légitime du patient en fin de vie ou souffrant d'une pathologie irréversible, reposant avant tout sur son consentement éclairé et sa pleine conscience, ont ainsi estimé ces 18 citoyens représentatifs de la population. Au vu du tapage concernant la loi sur le mariage pour tous, on attend d'une minute à l'autre une réaction des partisans de la manif pour tous. Votre steak de cheval à goût de Médoc, c'est normal. Ce matin, une opération qui vise la mise sur le marché de viande de cheval impropre à la consommation a été menée dans 11 départements. Selon France 3, des centaines de chevaux qui ont participé à des programmes scientifiques entre 2010 et 2012 se retrouvent dans la chaîne alimentaire après que les documents de traçabilité ont été falsifiés. Interrogé sur RTL, Benoît Hamon, le ministre de l'économie sociale et solidaire, a expliqué « Dans l'affaire Spanghero, on vendait du cheval à la place du bœuf, se souvient le ministre. On était dans la tromperie commerciale. Là, il pourrait s'agir d'un problème sanitaire. C'est différent de ce que l'on a connu. Pas de crainte concernant la dinde de Noël. On reconnaît encore assez facilement une volaille d'un équidé. » Vous ne vous posiez peut-être pas la question, mais voici quand même la réponse. Le pape François n'est pas marxiste. Il l'a affirmé dans le quotidien italien La Stampa, après en avoir été accusé. Fin novembre, il avait en effet publié une exhortation apostolique dans laquelle il dénonçait la dictature d'un marché implacable et culture du déchet. Levé de bouclier chez les conservateurs américains, un animateur radio conservateur avait qualifié ce texte de marxisme pur. Un membre du Tea Party avait précisé que selon lui, Jésus était un capitaliste prêchant la responsabilité personnel, pas un socialiste. Le pape a tout de même tenu à préciser qu'il connaissait des marxistes qui étaient des gens très bien. Radio Campus Angers, il est l'heure de chasser les ballasts et de tenir l'immersion, l'heure d'entrer dans le sous-marin. Il paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir. Le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiffen, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde et avec moi ce soir au poste de manœuvre, Victor, Charlotte et Julien. Ce soir, au sommaire du sous-marin, zoom sur les lieux qui font plaisir et qui viennent d'ouvrir à Angers. Bonsoir Stéphane Martin.
Bonsoir.
Vous êtes le nouveau disquaire de la place d'Angers.
Tout à fait.
Et vous entendrez ensuite Jean-Yves Kerornou qui tient le Joker's Pub, le nouveau café-concert angevin. Cette semaine, point de chronique écho d'Anne-Marie, mais nos deux chroniqueurs sportifs sont en studio pour notre plus grand bonheur. Bonsoir Charlotte et Julien.
Et on a plein de choses à vous raconter.
On attend ça, ça sera en fin d'émission. Et comme chaque jour en fin d'émission, après le journal des sports, vous retrouverez l'agenda et la bulle sonore. Mais pour s'immerger complètement, voici Victor, esselé, alone, isolé dans son scaphandrier, puisque Baptiste, son binôme de toujours, est remonté à la surface. Victor, interpellé par un prospectus alors qu'il se baladait.
La semaine dernière, en me baladant dans les couloirs de mon école, j'ai été stoppé dans mon élan par un prospectus catholique à disposition. Parmi eux, il y en avait un plutôt original qui s'intitulait « Faut-il avoir peur de l'islam ?» Oui, original, car cette question si inédite et si novatrice mérite d'être posée. Au mieux, elle ne fera qu'encore diviser plus les Français. Reprenons plus sérieusement. En ouvrant cette brochure chrétienne, je lis avec stupeur que beaucoup de Français auraient peur d'une islamisation de notre société. Peur de la charia et de coutumes archaïques. Bon, évidemment, je rigole doucement. Quand je vois qu'Hollande a du mal à faire passer une réforme fiscale, je me dis que même avec 20 séances d'UV et 7,5% de musulmans en France, c'est pas demain la veille qu'on obéira au dogme de la charia. Je lis aussi que le 11 septembre aurait détérioré les relations entre l'islam et les occidentaux. Alors, je comprends que ce soit un prospectus et que par conséquent il faille synthétiser au maximum, mais au-delà d'oublier de faire suivre radical après le mot islam, c'est gênant. Ça pousse au contresens. Il faut tout de même donner raison à ce papy en disant que le 11 septembre a permis avec malice l'amalgame de l'islamisme et de l'islam. Ainsi, toute intervention dans les pays musulmans pour la démocratie et pour la liberté peuvent être légitimées. Toutes les surveillances en passant par le métro de Paris pour finir par le rapt de notre vie intime sur les réseaux sociaux sont justifiables. Il y a clairement en France une parole qui se libère, et ce pauvre et banal prospectus en est l'exemple. On a vu ces dernières semaines un déferlement raciste envers Christiane Taubira. Du journal fasciste Minute à La Guenon en passant par la photo d'un bébé singe relayée sur Facebook par une ex-future candidate FN au municipal, une mentalité qui n'est pas loin de la vision du monde des expositions coloniales en France. À croire que la mort de Nelson Mandela ne donne pas une leçon d'histoire aux Français. Oui, oui, Madiba qui avait incendié Chirac pour qu'il rende à l'Afrique cette pauvre Vénus noire, dite Hottentote. Une Africaine, qui au XIXe siècle avait été exhibée comme un animal de foire, puis empaillée au musée des sciences en France, uniquement en raison de son physique spectaculaire, un arrière-train proéminent. Et pourtant, la France n'est pas raciste. Un sondage de ces 5 dernières années révèle que seulement 8% des Français tiennent des propos de hiérarchisation des races. D'autre part, il suffit de voir les dernières personnalités préférées des Français, Yannick Noah, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze, puis Omar Sy. Il y a pourtant bien un basculement de cette vieille idéologie raciale vers la xénophobie. Une crainte de l'immigration et surtout de l'islam en France. Certains essayistes d'une droite décomplexée, comme Yvan Rioufol, posent la question de la compatibilité du culte musulman avec la République. Cette interrogation pourrait être légitime si elle préoccupait davantage du sort de nos compatriotes musulmans victimes d'une ghettoisation et d'un communautarisme depuis les années 80. Pour faire un peu de sociologie, on peut remarquer que si certains musulmans français se tournent autant vers un islam plus radical et manifeste, c'est parce que le socle d'intégration des valeurs françaises n'a cessé d'évoluer depuis un demi-siècle. Ce socle évolue de manière constante au fil des politiques conservatrices ou alors progressistes. C'est avec ces allers-retours de la gauche à la droite et vice-versa, ayant des incidences sur le plan sociétal, que certains musulmans peinent à s'intégrer à un modèle français instable. La religion, elle, est stable et permet à ces musulmans d'avoir un équilibre en France. Mais les autres religions ne réagissent-elles pas de la même manière? N'a-t-on pas vu cette année un relent chrétien face au mariage homosexuel? C'est donc un phénomène qui est commun à toutes les religions pendant les moments de crise économique. La spiritualité est un refuge pour la plupart des délaissés. Quoi qu'il en soit, il y a une valeur transcendante en France, c'est celle de la République. Théoriquement, la République française est une et indivisible. Un système politique et philosophique qui ne doit éloigner et stigmatiser personne en fonction de ses croyances tant que celles-ci restent dans le cadre du privé, la laïcité. Pourtant, on continue de voir des unes de journaux, que ce soit Charlie Hebdo, comme Le Point, montrant du doigt la communauté musulmane. La semaine dernière, le rapport de l'intégration, disponible sur le site de Matignon comme un prospectus dans un couloir d'école, n'a laissé personne indifférent. Des mesures choc, comme l'autorisation du port du voile à l'école, sont susceptibles de provoquer une partie de la France patriote et identitaire. On aurait presque tendance à croire que Jean-Marc Ayrault renoue avec son passé stratégique mitterrandien. En effet, les deux septennats du Tonton étaient caractérisés par ce machiavélisme incroyable. D'une part, permettre à Jean-Marie Le Pen d'obtenir la tribune médiatique qu'il désirait, en appelant lui-même les responsables de chaînes télé pour inviter le nationaliste durant leur émission politique. Et d'un autre côté, diaboliser le parti frontiste avec des organismes tels que « Touche pas mon pote ». La tactique est évidemment d'amincir la droite de Chirac, ne pouvant pas moralement traiter des sujets propres au Front National tout en voyant grossir le parti du borgne breton. Alors, en ces échéances municipales de 2014, où pour les socialistes, ça commence à sentir le sapin, mais sans les boules et les guirlandes, Hollande serait-il en train de revêtir les habits du prince de Machiavel ?
Merci Victor pour ce billet d'humeur tout personnel qu'il est. Tout de suite, on écoute Skittle Alley, Our Friend Already Know.
There's got to be a time when you and I stop trying. There's got to be a time when we both stop crying. We've held each other's hands, we've tried to help each other through. You know that in the end I can be there with you. Already know that when the sun comes out tomorrow, there'll be a handwritten note on the kitchen table.
La galette, le disque, le vinyle, le 35 tours depuis septembre, vous en trouvez rue Baudrière chez Homewax, le record shop tenu par Stéphane Martin. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Alors, vous êtes le nouveau disquaire d'Angers.
Le nouveau.
Le nouveau.
Ouais.
On vous attendait. D'ailleurs, on y reviendra plus tard, mais on vous trouve difficilement sur Internet.
Et ouais, j'ai encore un peu des problèmes de com, ouais. Ça va se régler au courant de l'année prochaine, au début de l'année prochaine.
Alors, pour faire un peu connaissance, pour comprendre comment vous êtes arrivé rue Baudrière, est-ce que vous pouvez évoquer un peu votre parcours et puis votre rapport au vinyle, à l'objet ?
Ouais, le rapport au vinyle, je l'ai eu dès l'âge de 12 ans. parce qu'il y avait un très bon magasin dans le temps ici qui s'appelait Black & Noir. Et j'ai un peu découvert la musique au travers de ce magasin. J'étais tombé sur des pochettes de disques, de punk, en particulier d'un Ludwig 2088 que j'avais acheté à l'époque. Et ça m'est resté jusqu'à la disparition programmée du vinyle par le CD. Donc du coup, je suis retourné vite fait moi aussi vers le CD. J'ai un peu lâché mes scuds et tout. Et puis, pour retrouver un an plus tard un assassin homicide volontaire à 10 francs pièce tout neuf. Donc là, je me suis dit, tant pis pour la qualité de son super royal du CD. Je vais retourner à mes galettes puisque ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher quand même maintenant. Donc voilà, je suis retourné aux galettes et puis je me suis vraiment mis à entamer une collection de vinyles quand j'ai commencé à mixer beaucoup plus tard. C'était vers 98. Voilà, et puis après, petit boulot, petites expos aussi, puisque je peins les heures perdues. Et puis, bon an, mal an, je me suis retrouvé à Planète Saturne, qui m'a embauché pour être vendeur dans le rayon CD, DVD. Et puis de là est partie l'idée, avec les prix aussi très intéressants de Saturne, partie l'idée de refaire revenir un peu le vinyle dans le magasin Saturne. Au départ, je commandais pour moi et pour mes potes, puisqu'on était toujours aux galettes. Et puis, ça a un peu fait tache d'huile. Je leur ai proposé l'idée de monter un vrai rayon vinyle, ce qu'on a fait, puis ce qui a marché pendant au moins 5 ans. Ouais.
Jusqu'à
la fermeture définitive de Planète Saturne en France, repris par Boulanger. Et pour Boulanger, il est hors de question de faire du vinyle. Déjà qu'on fait pas trop de CD, de DVD, donc on va pas se mettre à faire du vinyle. Voilà, en gros. Et du coup, de là a germé déjà je me retrouvais sans boulot, donc il fallait bien que j'en trouve un. Et autant m'en trouver un qui me plaise. J'ai eu l'opportunité de monter ce petit magasin, donc je l'ai fait tout simplement.
Vous parliez de Black & Noir, c'était la période faste un peu des disquaires.
C'était la période c'était la période faste. En même temps, il y a toujours une actu musicale assez intense à Angers quand même, entre dans les années 80 les Tugs, les années 80-90 les Tugs plus Anzilé, des choses comme ça qui se sont mis en place, en particulier grâce au magasin Black & Noir aussi. Et puis moi, traînant toujours un peu mes guêtres dans ce magasin, je voyais tout ce monde là s'activer, moi j'achetais mes galettes, etc. Mais c'est vrai que c'était une période un peu plus faste pour la musique en général, quoi, pas forcément pour des disquaires. La musique était quand même de un peu meilleure qualité dans les années 80-90 qu'elle ne l'est aujourd'hui, malheureusement.
Parce qu'aujourd'hui, si on compte à Angers, là, je parle juste des points de vente. Il y a la Fnac, CDBD, et maintenant vous.
Et maintenant, ouais.
Mais c'est quand même très peu par rapport à ce qui existait il y a encore.
C'est très peu par rapport à ce qui existait, mais en même temps, je compte sur l'avenir pour me dire déjà que j'ai raison, et puis pour pousser d'autres personnes éventuellement à monter leurs petites entreprises, qu'elles soient de disquaires, d'art, etc. Puisque je crois qu'il y a un vrai retour aussi aux valeurs un peu plus anciennes, la matérialisation, l'échange, le partage entre les gens, le vrai partage entre les gens, sans passer par forcément un gros magasin de grande distribution, etc.
Vous parliez de la matérialisation. On est en pleine période de dématérialisation, en fait, et vous croyez à l'objet ? Au retour de l'objet ?
Moi, je crois toujours à l'objet, puisque de toute façon, il n'y a que ça qu'on puisse réellement tenir entre nos mains. Après, il faut être passionné il faut quand même avoir le goût de l'objet, de la musique sur vinyle, pour acheter un vinyle, puisque ça a quand même pris, au niveau des prix, une certaine augmentation. Donc, il faut quand même être passionné de l'objet, et de la musique en général, quoi. La dématérialisation, elle intervient aussi avec le MP3, avec le tout plus vite, le tout plus rapide. On a tout ce qu'on veut tout de suite, mais si on veut prendre du temps, on va prendre du temps pas avec un MP3, on va prendre du temps avec un bon vieux vinyle, de Led Zeppelin, d'Hendrix, de ce que vous voulez, du Bob Marley, ce qu'on veut. Mais c'est quand même une autre façon d'écouter de la musique de toute manière.
Vous parliez de l'arrivée du CD tout à l'heure, ça a changé quoi par rapport au vinyle, au niveau de la qualité du son ?
Le CD, en fait, nous a été balancé, je crois que c'est Philips, si je ne dis pas de bêtises, qui a lancé ça, soutenu par Sony, comme la révolution du disque et de la qualité de son. Bah, pour beaucoup, ça a été une déception pas longtemps après. Je dirais que le CD a tenu pendant 5 ans les gens en haleine et puis qu'après, les a plutôt déçus. Ceux qui étaient pas... Et il y a beaucoup de gens qui sont retournés au vinyle dès les années 90, puisque le CD est arrivé dans les années 80, début 80. Et déjà dans les années 90, rien que par le biais des DJ, le vinyle faisait déjà son retour, de toute façon. Et bien avant ça, si on veut parler vraiment des DJ de New York, de Détroit et tout ça.
Et là, vous sentez qu'il y a un vrai revival, comme on dit?
Oui, oui, un vrai revival, c'est clair que, bon, en même temps, il y a toujours eu du vinyle, hein, pratiquement tout est toujours sorti sur vinyle, ça faut le savoir, puisque moi, j'ai jamais eu de coupure dans ce que je pouvais trouver, dans ce que je cherchais en vinyle, donc il y a à peu près tout est sorti en vinyle, mais il y a aussi l'effet, la mode actuelle, vintage, le retour à la mode des années 60, 70, fait que le vinyle en fait partie, et du coup, les gens se remettent à racheter des platines exprès pour cultiver cette mode du vintage. Donc ça va avec un mode vintage, mais les gens, quand ils partent de là, s'aperçoivent très vite aussi de la qualité du son du vinyle, de cette différence d'écoute dont je vous parlais il y a 5 minutes.
Et il y a cette mouvance-là du vintage, il y a aussi plein de gens qui sont mis à mixer.
Il y a plein de gens qui se sont mis à mixer, bien sûr. Sur vinyle, de moins en moins, quand même. On croise de moins en moins de DJ sur vinyle. Ils sont beaucoup plus sur MP3, disque laser, ou même Serato qui mixe un peu le MP3 sur vinyle, quoi. Donc là, c'est un petit mélange un peu incestueux. Mais les gens qui se sont mis à mixer maintenant, enfin, ceux qui sont restés. Qui ont toujours été aux galettes, ils restent sur les galettes parce que moi j'avoue que je suis le premier à le faire, c'est que je ne pourrais jamais mixer de CD, je ne sais pas comment ça marche, il y a trop de boutons, il y a trop de choses à faire, et moi avec mes deux galettes, j'ai juste à caler du son, à pousser mes petits doigts dessus pour les caler, et c'est terminé, et après je prends mon pied.
C'est quoi les réactions des clients qui sont arrivés chez Omwax là à l'automne?
Alors la toute première réaction c'est « Oh, ça manquait hein. !» Donc je suis content qu'on me dise ça et puis les gens sont contents en général, ouais, les gens sont contents de retrouver un tel magasin sur Angers. Je crois que vraiment des magasins comme Palace Records, Black & Noir manquaient à beaucoup de gens en fait.
Et votre clientèle c'est qui alors?
Il y a indéfinissable. Ça peut aller de... J'ai un petit client qui s'appelle Achille. Salut Achille, si tu m'écoutes. Qui a 12 ans et qui vient régulièrement chez moi écouter du rock stoner, Queen of the Stone Age, Black Angels et tout ça. Donc, et puis ça va jusqu'à... Je dirais que j'ai eu un vieux monsieur de au moins 70 ans samedi qui m'a pris un vieux Rolling Stones d'époque, Aftermath. Donc c'est vraiment pas d'âge, pas de classe sociale forcément, ni rien quoi.
Pas forcément des collectionneurs ou...
Non, vraiment de l'échange et du partage.
De l'échange et du partage. Vous avez quoi comme... Vous avez tous les styles. Vous dites qu'il n'y a pas eu de coupure, il n'y a jamais eu de coupure dans la production de vinyle, qu'on trouvait tout. Est-ce que vous aussi, vous vendez tout? Est-ce que vous faites quand même votre petit choix?
Je fais mon petit choix dans la mesure où ça reste... Où je peux, moi, à partir du moment où je peux coller l'étiquette musique et pas produit, ça me va, en fait. Donc, je ne fais pas de produit.
On ne trouvera pas Beyoncé chez vous?
On peut trouver quelques morceaux de Beyoncé quand même, parce qu'il y a quand même des incontournables. Je considère aussi le Toxic de Britney Spears comme un incontournable.
Ça, comme beaucoup.
Après, voilà,